Bonjour. Alors, aujourd'hui, on se plonge dans les idées, les débats, parfois les tensions, hein, qui traversent le Maroc. Et pour ça, on s'appuie sur le numéro 1213, de septembre 2025 de la publication e-débat. L'objectif, c'est d'essayer d'extraire un peu la substantifique moelle, de voir les analyses clés, les discussions importantes, et puis parfois les perspectives un peu surprenantes qui émergent de tous ces articles. On va toucher à pas mal de choses, politique, économie, société, relations internationaux. Ça donne un bon aperçu des préoccupations actuelles au Maroc, quoi.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ce genre de publication, c'est un peu comme une photo, un instantané des discussions qui animent le pays à un moment T. Et ce numéro de septembre 2025, il montre bien une société marocaine qui s'interroge sur son avenir. Quel modèle de développement? Quelle place dans le monde? Comment on répond aux défis sociaux? Franchement, c'est une source très riche pour comprendre un peu ces questionnements.
Alors, on attaque direct avec un sujet politique qui revient souvent, la participation des Marocains résidant à l'étranger, les fameux MRE. Les articles de Sanaa Dali et Marwan Benima y montrent bien un paradoxe assez frappant. D'un côté, la Constitution, article 17, elle garantit le droit de vote, le droit d'être élu.
Oui.
Mais dans la réalité, leur participation aux élections, elle reste très, très faible.
Oui, et ce n'est même pas qu'une question de logistique, même si les obstacles sont réels, hein, les bureaux de vote dans les consulats, parfois, c'est à des centaines de kilomètres.
Ah oui, j'imagine.
L'inscription sur les listes, c'est une démarche volontaire, souvent mal expliquée, un peu lourde. Mais au-delà de ça, ce que les articles suggèrent, c'est un sentiment peut-être plus profond de, comment dire, de déconnexion, voilà. Le système électoral actuel, il donne l'impression de ne pas être vraiment taillé pour cette diaspora, malgré les garanties sur le papier, quoi.
D'où cette impression qui rapportait dans les textes que leur voix finale ne compte pas vraiment, faute de représentation directe au Parlement. Et puis, les campagnes électorales menées depuis le Maroc, elles ont du mal à toucher, à mobiliser ces citoyens, surtout les plus jeunes, j'imagine, ceux qui sont nés ou qui ont grandi à l'étranger.
C'est exactement ça. Et c'est là que regarder ce qui se fait ailleurs, ça devient intéressant. On pense à la Tunisie, par exemple, qui a créé des circonscriptions spécifiques pour l'étranger. Ça, c'est un modèle. Pour le Maroc, e-débat explore plusieurs pistes. Le vote électronique, la France l'a déjà testé pour ses expatriés.
Oui, c'est vrai.
Ou alors le vote par correspondance, comme ça se fait au Portugal, en Italie. L'idée d'une phase pilote pour tester ces méthodes est avancée. Pour voir ce qui pourrait coller au contexte marocain, en fait.
Il y a aussi cette idée de leur réserver des sièges au Parlement. Un des auteurs juge l'objectif initial d'un tiers des sièges un peu irréaliste.
Oui, ça paraît énorme, un tiers.
Mais une fourchette de 10 à 15 sièges, peut-être. Avec une exigence de parité homme-femme, ça semble plus jouable, non?
Absolument. 10 à 15 sièges, ça paraît plus réaliste et ça donnerait déjà une voie directe. On se souvient de la mesure de 2021 là, qui obligeait les partis à mettre une candidate MRE en tête d'une liste régionale.
Oui.
Son impact a été surtout symbolique, en fait. Peu ont été élus justement parce qu'il n'y avait pas de siège garanti pour la diaspora. Pourtant, si on renforçait cette représentativité, leur rôle pourrait être démultiplié. On dit souvent que les MRE sont de véritables ambassadeurs de proximité. S'ils étaient mieux intégrés politiquement, ils pourraient être des relais plus efficaces pour orienter leurs transferts financiers qui sont importants vers l'investissement productif, par exemple, ou pour promouvoir la culture marocaine, soutenir les causes nationales. On pense au Sahara marocain, évidemment.
On reste dans la politique avec les élections législatives de 2026. Qui se prépare. Le roi Mohamed VI a insisté sur une préparation judicieuse en parlant de transparence, d'implication de tous les acteurs. Et dans ce cadre, le ministre de l'Intérieur a démarré les consultations avec les partis politiques.
Oui, et sans grande surprise, les partis ressortent leurs demandes habituelles, hein. Refonte du découpage électoral, ajustement du mode de scrutin, les règles de financement des campagnes, la lutte contre l'argent sale, les classiques, quoi.
Des marronniers, presque.
Un peu, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un article d'Aziz Bouceta note que certains partis communiquent très peu, voire pas du tout, avec leurs propres électeurs sur leurs propositions concrètes. Ça peut renforcer ce sentiment que les vraies discussions, elles se passent un peu en coulisses, loin du citoyen lambda.
Et Mustapha Sehimi, lui, il identifiait les grands débats qui animent cette préparation. Le premier, c'est le gros défi de la participation. Et là, la question de l'inscription automatique des jeunes sur les listes électorales, elle revient sur le tapis.
Bah oui, c'est un débat technique, mais avec des enjeux politiques très forts. Si on passe à l'inscription automatique, le nombre d'électeurs potentiels pourrait grimper à
27 millions.
Mais si la mobilisation réelle ne suit pas derrière, alors le taux de participation officiel, lui, chuterait mécaniquement. Et ça afficherait de manière beaucoup plus crue une possible défiance vis-à-vis de la politique.
C'est un risque.
Oui. L'article de CIMI souligne bien que le vrai enjeu, c'est de réussir à remobiliser les jeunes. Apparemment, 2/3 ne seraient pas inscrits actuellement. C'est énorme. La question, c'est comment leur redonner envie de participer?
Autre point sensible qui ressort. La qualité des élus. Face aux défis complexes d'aujourd'hui, on sent une exigence plus forte d'intégrité, de compétences. Aziz Bouceta, il va même jusqu'à suggérer un niveau d'instruction minimum, genre diplôme universitaire, pour pouvoir être candidat aux législatives.
Ah oui, quand même. C'est une proposition qui doit faire débat, ça.
J'imagine, oui. C'est assez radical.
Et puis, il y a l'éternelle question de la neutralité de l'administration pendant les élections. C'est une demande récurrente des partis. Mais Bouceta, il émet des doutes sur la réelle détermination de certains partis à combattre les interférences. Il parle même d'une sorte de servitude volontaire. C'est une analyse assez critique hein, de la relation entre certains partis et l'administration.
Oui, c'est assez direct. Et puis, la question de l'inclusion. Adlan Benchakroun, lui, relaie une proposition intéressante du parti de l'Istiklal. L'idée, c'est de mieux intégrer les personnes en situation de handicap dans le processus politique.
Oui, et c'est une approche qui semble aller au-delà des simples déclarations d'intention. Elle prévoit des incitations financières pour les partis qui présentent des candidats handicapés, un bonus financier si ces candidats sont élus, et aussi des mesures très pratiques pour faciliter le vote des électeurs concernés. Pouvoir être accompagné, mise aux normes des bureaux de vote. L'objectif, c'est de rendre la citoyenneté plus effective, plus réelle pour cette partie de la population.
Benchakroun mentionne aussi une idée plus controversée, on va dire, portée par le PPS, rendre le vote obligatoire. Forcément, ça fait réagir.
Eh ben oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Les critiques fusent, évidemment. Déjà, le paradoxe, des partis qui défendent les libertés voudraient forcer les gens à voter.
C'est vrai.
Ensuite, est-ce qu'on ne risque pas de traiter juste le symptôme, l'abstention, sans s'attaquer aux racines du problème, c'est-à-dire la défiance, le manque d'entêlé? Et puis, concrètement, comment on contrôle? Quelles sanctions? C'est hyper compliqué, sans parler du risque que ça décrédibilise encore plus le vote, au final. C'est un débat vraiment qui divise.
On change complètement de registre maintenant. On bascule vers des sujets de société et d'économie. Un article d'Aziz Daouda parle d'une renaissance du cannabis au Maroc. C'est intéressant comme terme. Il rappelle un peu l'histoire très particulière de cette plante dans le pays. L'usage traditionnel du kif qui a longtemps été toléré dans le Nord.
Oui, une sorte de zone grise.
Voilà. Puis la régulation sous le protectorat, pour des raisons fiscales surtout. Et enfin, la prohibition après l'indépendance. Sous pression internationale, la fameuse loi de 1974.
Une prohibition qui, il faut le rappeler, n'a jamais vraiment stoppé la culture clandestine, hein, surtout dans le RIF. Cette région a continué d'alimenter massivement le marché illégal, notamment vers l'Europe. Le grand tournant, c'est la loi de 2021. Elle ouvre la voie à un usage légal du cannabis, mais attention, très encadré, hein. Médical, pharmaceutique et industriel uniquement. L'usage récréatif, lui, reste interdit. C'est important de le souligner.
Et l'article note des avancées concrètes depuis cette loi. Apparemment, 67 produits, dérivés, des cosmétiques, des compléments alimentaires, ont été enregistrés récemment. Et surtout, la surface cultivée légalement aurait triplé en 2025. On parle de 400 hectares, principalement avec la variété locale, la Baladia.
Oui, le potentiel économique, il est indéniable. On parle de structurer une vraie filière légale. Ça veut dire des emplois, de la valeur ajoutée, des recettes fiscales pour l'État. C'est aussi un facteur d'attractivité pour les investisseurs, étrangers ou marocains. Et c'est surtout potentiellement une chance énorme pour la revitalisation économique du RIF, cette région historiquement liée à cette culture, mais souvent marginalisée. Mais attention, les défis sont à la hauteur du potentiel. Il faut une régulation hyper stricte pour éviter les détournements vers le marché noir.
C'est le risque principal, j'imagine.
Exactement. Il faut réussir à organiser les petits agriculteurs en coopérative efficace, c'est pas simple. Et puis gérer la transition pour tous ceux qui cultivaient illégalement jusqu'à présent. C'est un chantier énorme.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'article replace cette évolution marocaine dans un contexte plus large, mondial. Il rappelle comment le chanvre, qui est quand même une plante super écologique, robuste, qui demande peu d'eau, a été diabolisé, marginalisé, notamment aux États-Unis dans les années 30, avec des figures comme Arianne Slinger, des lois comme le Marijuana Tax Act de 1937.
Oui, sous la pression, dit l'article, d'intérêts industriels concurrents, le coton, la chimie, le papier, et ça a mené à son interdiction quasi mondiale via la Convention de l'ONU de 1961.
Et aujourd'hui, on assiste à un retournement complet.
Ah oui, un retour en grâce spectaculaire. Hein. Le chanvre est maintenant vu comme une ressource clé pour la transition écologique, grâce à ses multiples usages, textiles, construction, bioplastique et sa faible empreinte carbone. Donc la démarche marocaine, elle s'inscrit aussi dans cette tendance globale de redécouverte des vertus du chanvre industriel et médical après des décennies de prohibition. C'est assez fascinant.
On passe à un autre sujet économique et social, l'entrepreneuriat. Abdelghany Ellaras commence son article avec une question un peu provoque, attribuée à Robert Kiyosaki. Pourquoi l'école ne nous apprend pas à devenir riche ? Bon, l'article observe qu'au Maroc, la culture dominante, elle continue de privilégier la sécurité de l'emploi salarié, surtout dans la fonction publique.
Oui, ce graal de la fonction publique.
Et exactement, plutôt que la prise de risque de créer sa propre entreprise.
Et c'est un constat important, parce que les TPME, les très petites, petites et moyennes entreprises et les start-up, elles sont absolument vitales pour créer des emplois, surtout pour les jeunes, et pour dynamiser la croissance. Le Maroc a lancé pas mal de programmes de soutien, hein, Intilaka, Aourache, Forsa, la nouvelle charte de l'investissement.
Oui, on en entend parler régulièrement.
Mais l'analyse qui est faite ici pointe un déséquilibre. On met beaucoup l'accent sur le financement, le fric, hein, si on veut, mais peut-être pas assez sur l'accompagnement concret, de proximité, sur l'éducation à l'esprit d'entreprise, et ça dès le plus jeune âge, à la maison, à l'école, et aussi sur le mentorat par des entrepreneurs qui ont réussi, qui peuvent partager leur expérience.
L'article cite d'ailleurs quelques modèles étrangers pour illustrer d'autres façons de faire. La culture du self-made aux États-Unis, le rôle des PME technologiques en Corée du Sud, le fameux Mittelstand allemand, ou même le Rwanda qui mise beaucoup sur le numérique.
Exactement. Ces exemples montrent que l'enjeu, il va au-delà des dispositifs publics, en fait. C'est un vrai changement de mentalité qui est nécessaire si on veut vraiment s'attaquer au chômage des jeunes diplômés. Il faut qu'on valorise collectivement davantage la prise de risque, qu'on reconnaisse mieux l'entrepreneur comme un créateur de valeur essentielle pour la société, et qu'on arrive à infuser cette culture entrepreneuriale partout, dès l'école, à l'université.
On fait un petit crochet rapide par l'intelligence artificielle. Le docteur Azzedine Benani se pose la question « Sommes-nous dans une bulle IA ?» Il mentionne le fameux cycle de Gartner, ce graphique qui montre les phases d'adoption d'une technologie.
Oui, la courbe de la hype.
C'est ça. Et selon ce cycle, l'IA générative, en 2025, elle serait dans ce qu'ils appellent le gouffre de la désillusion. Apparemment, c'est une étape assez classique après l'emballement initial.
Oui, l'article fait bien la différence entre la hype médiatique, tout cet enthousiasme un peu fou, et une bulle financière spéculative au sens strict. La situation est assez contrastée, en fait. D'un côté, vous avez des géants comme OpenAI ou Anthropic, qui génèrent énormément de revenus, mais qui ne sont toujours pas rentables. Et à côté, des milliers de startups qui lèvent des fonds considérables, mais sans toujours avoir un modèle économique bien clair, bien viable.
Il y a un chiffre du MIT, cité dans l'article, qui est assez parlant. Le rapport « State of AI in Business 2025 ». Il dit que 30 à 40 milliards de dollars auraient été investis dans des projets IA, mais que pour 95% d'entre eux, le retour sur investissement n'est pas mesurable. 95%, c'est énorme.
Oui, c'est considérable. Selon l'auteur, ces difficultés, elles s'expliquent par plusieurs choses. D'abord, des attentes souvent démesurées, presque magiques vis-à-vis de l'IA. On attend qu'elle résolve tout. Ensuite, les vrais défis de l'intégration concrète dans les process des entreprises. C'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre, et c'est souvent là que ça coince. Et puis aussi, une certaine méconnaissance de ce qu'est vraiment l'IA. C'est un système probabiliste qui fait des erreurs par nature, ce n'est pas un logiciel classique parfait. L'idée clé de l'article, c'est qu'il faut dépasser cette hype. Il faut une approche culturelle différente. Avancer prudemment, tester sur des cas d'usage précis, accepter d'apprendre les erreurs, et surtout, garder l'humain dans la boucle. Voir l'IA comme un copilote atypique, un outil puissant, mais pas une solution miracle.
On aborde maintenant la troisième grande partie, les perspectives internationales et régionales. Et on commence par la question du Sahara, mais vu sous un angle historique, à travers un article de Gilali El-Ednani. Il s'est basé sur des archives diplomatiques françaises datant de 1978-1979. Quelle est la thèse principale qu'il développe ?
Alors, l'article analyse ce qu'il présente comme étant la stratégie algérienne à cette époque, 78-79. Selon cette lecture des archives diplomatiques françaises, Alger aurait cherché à sortir le différent de la sphère purement arabe. Parce que dans cet espace, le conflit était souvent perçu comme un problème bilatéral algéro-marocain. Et les médiations semblaient bloquées par Alger, d'après l'auteur. Donc l'idée aurait été de l'internationaliser en passant par l'Organisation de l'Unité Africaine, l'OEA, l'ancêtre de l'UA, et l'ONU. Et dans cette stratégie, toujours selon l'article, le Polisario aurait été utilisé comme un acteur écran. L'article s'appuie sur des échanges ou des notes de diplomates comme Jean-Marie Mérillon, côté français, et mentionne des figures politiques comme Raymond Barre ou Abdelaziz Bouteflika.
Et l'article revient aussi sur le soutien militaire présumé de l'Algérie au Polisario à cette période. C'est ça, hein ?
Oui, il évoque la fourniture d'armements jugés assez sophistiqués pour une simple guérilla, comme des missiles Solcer SAM 6, d'après les observations des diplomates français de l'époque qui sont cités. Le rôle de la base arrière de Tindouf en territoire algérien est décrit comme absolument crucial pour l'entraînement, le commandement de l'ALPLS, Armée de Libération Populaire Sahraoui, l'approvisionnement, et puis comme zone de repli, de refuge. Il y a même une citation attribuée à l'ambassadeur Mérillon qui qualifie Tindouf de l'une des clés fondamentales du système. L'analyse de la source va jusqu'à présenter le Polisario comme émanant au départ d'une dissidence tribale, Régubat notamment, qui aurait ensuite été instrumentalisée par Alger pour servir ses propres objectifs géopolitiques contre le Maroc. Il faut bien préciser que c'est la perspective développée dans cet article précis qui se base sur l'interprétation de ces documents d'archives spécifiques.
D'accord. Un autre regard très différent sur la situation à Tindouf est proposé par Lassen Haddad. Il utilise un concept du philosophe Achim Bembe, la nécropolitique. C'est un terme assez puissant, assez sombre. Vous pouvez nous éclairer un peu ?
Oui, c'est un concept fort. En résumé, la nécropolitique chez Bembe, ça désigne une forme de pouvoir qui s'exerce non seulement sur la vie des gens, mais aussi sur leur mort ou sur les conditions qui mènent à la mort. C'est la capacité de l'État ou d'une autorité à décider qui peut vivre et qui doit mourir, ou de façon plus insidieuse, à maintenir des populations entières dans des conditions de vie minimales, précaires, dans ce qu'il appelle des mondes de mort, où l'existence est réduite à sa plus simple expression, sans perspective réelle, sans avenir, une sorte de mort sociale en quelque sorte.
Et comment Lassen Haddad applique-t-il ce concept au camp de Tindouf selon son article ?
Alors, selon son analyse, les camps de Tindouf présenteraient plusieurs caractéristiques de cette nécropolitique. D'abord, il y voit un héritage de la violence coloniale, notamment cartographique, qui a figé des populations dans des territoires délimités, un peu hors du temps. Ensuite, le confinement spatial, le contrôle, la surveillance permanente dans les camps. Puis, cette espèce de suspension du temps, un état de provisoire permanent qui dure depuis des décennies. Des générations naissent et vivent là, sans autre horizon que le camp. À cela s'ajoute, selon l'auteur, la dépendance économique quasi totale à l'aide humanitaire externe. Aide dont l'article rappelle d'ailleurs qu'elle a fait l'objet d'accusations de détournement par l'OLAF, l'Office antifraude européen.
Oui, c'est un point récurrent.
Voilà. Et enfin, dernier élément de cette analyse nécropolitique, la négation de la subjectivité politique des habitants des camps. Le Polisario s'imposerait comme le seul porte-parole autorisé et toute forme de dissidence ou de contestation serait réprimée.
Et l'article met cette vision en contraste avec la politique que mène le Maroc dans les provinces sahariennes qu'il présente comme une politique de la vie.
Exactement. C'est ce contraste que l'auteur construit pour appuyer sa lecture nécropolitique des camps. Il oppose une gestion qu'il décrit comme axée sur le contrôle, la survie minimale et la dépendance à une approche qui revendique l'investissement, le développement, l'amélioration des conditions de vie. C'est une lecture très critique, évidemment.
On reste un peu sur le Sahara, mais avec un autre angle. Mamouna Acharki signale une prise de position qui semble intéressante, celle de Rima Hassan, l'eurodéputée des franco-palestiniennes.
Oui, apparemment, elle aurait clairement refusé l'analogie qui est souvent faite entre la cause palestinienne et le différend autour du Sahara. Et ce n'est pas anodin, parce que ce parallèle, c'est un argumentaire très fréquemment utilisé par le Polisario et ses soutiens. L'idée, c'est de mobiliser la sympathie internationale en s'appuyant sur la légitimité historique et la charge émotionnelle très forte de la cause palestinienne.
Quelle pourrait être la portée de ce refus d'analogie venant d'elle en plus ?
Eh bien, en dissociant clairement les deux causes, cette prise de position met en lumière les différences fondamentales de contexte, d'histoire et surtout de cadre juridique. Les résolutions de l'ONU sur la Palestine, elles parlent d'occupation, de droit au retour, c'est un cadre très spécifique lié à la décolonisation et à un conflit post-colonial précis. Le dossier du Sahara, lui, il s'inscrit aujourd'hui dans un processus politique mené sous l'égide de l'ONU, qui vise une solution politique mutuellement acceptable. Et dans ce cadre, le plan d'autonomie proposé par le Maroc est considéré comme une base sérieuse et crédible par de très nombreux pays. Donc, que cette distinction vienne d'une personnalité comme Rima Hassan, elle-même issue de la diaspora palestinienne et très engagée sur cette cause, ça pourrait fragiliser l'argumentaire par comparaison et influencer la perception internationale du dossier sahraoui.
D'accord. On quitte maintenant le Sahara pour aborder un autre sujet important au Maroc, la situation des réfugiés et des demandeurs d'asile. C'est aussi Mamoun Acharki qui en parle. Les chiffres qu'il donne sont assez significatifs. Près de 19 800 personnes enregistrées fin juillet 2025.
Oui, ces chiffres confirment une tendance de fond. Le Maroc, qui a longtemps été surtout un pays de transit vers l'Europe...
Oui, la porte d'entrée.
Voilà, devient de plus en plus un pays d'installation au moins temporaire pour des populations qui fuient des conflits, des persécutions ou une misère extrême. Et les origines sont très diverses. Il y a beaucoup de Syriens, de Yéménites, de Soudanais, mais aussi de plus en plus de personnes venant du Sahel, d'Afrique centrale comme les Congolais ou d'Afrique de l'Ouest comme les Ivoiriens. C'est très mélangé.
Le Maroc a mis en place des structures d'accueil, non ?
Oui, oui. Il y a un dispositif institutionnel. Un bureau des réfugiés et apatrides, le BRRA, une collaboration assez étroite avec le HCR, l'Agence de l'ONU pour les réfugiés. Et il y a aussi des initiatives au niveau local, des partenariats avec les municipalités, notamment pour l'accès à l'école, pour les enfants ou l'accès aux soins. Mais les défis restent énormes, il ne faut pas se le cacher. L'intégration économique est très difficile. La grande majorité de ces personnes se retrouvent dans le secteur informel, avec toute la précarité que ça implique. Et puis, il y a cette question juridique. L'absence d'une loi d'asile globale crée ce que l'article appelle un « clair-obscur juridique ». Même s'il y a des cadres réglementaires, ce n'est pas une loi complète. Et enfin, la perception de ces populations par la société marocaine, elle oscille un peu selon les contextes, entre solidarité et méfiance. C'est complexe.
On termine ce tour d'horizon international avec une note de prospective géopolitique. Ahmed Naji analyse un projet de nouvelle doctrine de défense américaine. Ça aurait circulé début septembre 2025 sous l'administration Trump. C'est tout récent.
Oui, et l'idée centrale de ce projet de doctrine, ce serait un recentrage stratégique majeur des États-Unis. Un recentrage sur leur propre territoire et sur l'hémisphère occidental. Les Amériques, en gros. Et ça impliquerait potentiellement une réduction significative de leur engagement militaire direct ailleurs dans le monde, notamment face à la Chine en Asie. Ce serait une rupture assez nette avec le fameux pivot vers l'Asie qui avait été engagé par les administrations précédentes.
Quelles pourraient être les conséquences d'un tel virage, si ça se confirmait ?
L'article d'Ahmed Naji pointe pas mal de contradictions et de risques potentiels. Par exemple, comment est-ce qu'on peut concilier ce recentrage géographique avec une politique commerciale qui resterait très agressive ? L'exemple donné, c'est l'imposition de droits de douane élevés à l'Inde, alors que l'Inde est vue par beaucoup comme un contrepoids essentiel à la puissance chinoise en Asie. Ça paraît contradictoire.
Oui, en effet.
Et d'ailleurs, l'auteur note que peu après l'annonce de ces éventuels tarifs douaniers, le Premier ministre indien, Narendra Modi, a participé à un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, aux côtés des présidents chinois et russes. C'est peut-être un signe des réalignements stratégiques que pourrait provoquer une politique américaine jugée trop imprévisible ou trop isolationniste.
Ça soulève des questions beaucoup plus fondamentales sur le rôle des États-Unis dans le monde, finalement.
Tout à fait. Sur la durabilité de leur position de leader mondial, de gendarme du monde, et sur cette idée que l'article évoque de manière un peu abrupte, que Washington pourrait vouloir que ses alliés assument une plus grande part du fardeau sécuritaire régional. Alliés que l'article qualifie de « laquais chargés de faire le sale travail ». C'est une formulation forte, mais ça traduit bien cette remise en question assez profonde de la posture internationale américaine telle qu'on la connaît depuis des décennies.
Eh bien, voilà un aperçu très, très riche de ce que propose ce numéro d'e-débat. On voit bien la diversité, la complexité des sujets qui agitent la société marocaine aujourd'hui, entre des défis internes qui sont majeurs, politiques, économiques, sociaux, et puis cette nécessité de naviguer dans un environnement international qui est en plein bouleversement.
Oui, et tout cela nous amène peut-être à une question un peu plus de fond, une sorte de fil rouge implicite qui traverse tous ces articles. Face à cette multitude d'enjeux, qu'il s'agisse de rendre la participation politique plus réelle, plus inclusive, de réussir un développement économique qui soit innovant et qui profite à tous, de gérer durablement des ressources critiques comme l'eau, comme le cannabis, désormais légal, d'apaiser les tensions sociales, régionales, ou de se positionner intelligemment sur la scène mondiale, face à tout ça, le véritable défi transversal pour le Maroc, n'est-ce pas finalement la capacité de ces institutions clés à s'adapter, à innover et à agir de manière cohérente et efficace ? Qu'on parle des partis politiques, de l'administration, du système éducatif, de la société civile, n'est-ce pas cette agilité institutionnelle, cette capacité de réforme et d'action qui conditionnera largement la stabilité et le progrès du pays dans les années à venir ? C'est une interrogation, je trouve, qui relie pas mal des points qu'on a abordés et qui invite à réfléchir aux leviers concrets de cette nécessaire adaptation.